Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, bonjour à tous. Nous allons reprendre le cours aujourd'hui et avec ce cinquième cours, aborder la question évidemment centrale dans le domaine de la lecture, de la variabilité culturelle, puisqu'il existe des systèmes d'écriture d'une très grande variété, au moins superficiellement dans le monde, et derrière cette variabilité apparente, la question d'une possible universalité des mécanismes cérébraux et cognitifs de la lecture. La semaine dernière, je vous avais montré ce schéma et nous avions discuté de l'existence de plusieurs voies possibles pour la lecture. Les trois premiers cours avaient été consacrés à l'entrée visuelle dans le système de la lecture, qui démarre évidemment donc dans le pôle occipital et cette région occipito-temporale gauche joue un rôle extrêmement important dans la reconnaissance invariante de la forme des chaînes de caractères. Et puis nous avions vu ensuite que, évidemment, le travail dans la lecture ne s'arrête pas là. La lecture, c'est évidemment la mise en connexion de la reconnaissance visuelle des mots avec les régions impliquées dans le traitement du langage. Et nous avions vu qu'au moins en première approximation, on pouvait considérer une grande division entre des régions qui s'intéressent à la prononciation et à l'articulation des mots et d'autres régions qui s'intéressent à la représentation lexicale et à la représentation sémantique des mots. Cette littérature est assez complexe. Je crois que le cours de la semaine dernière était un petit peu compliqué puisqu'il faisait appel à différentes méthodes, celle de la neuropsychologie. Il existe des patients qui ont des dissociations entre ces deux modes de lecture. Il faisait également appel à différentes méthodes d'imagerie et nous avions vu en particulier que suivant le mot qui est présenté au sujet, eh bien, les deux voies de lecture vont contribuer mais avec des pondérations plus ou moins importante, et le temps final de lecture, c'est l'expérience de magnétoencéphalographie, va être déterminée par laquelle de ces grands de routes de traitement de l'information a une pondération plus importante pour certains types de mots. Donc vous vous souvenez de cette distinction entre pseudomots, qui passe nécessairement par une conversion des graphèmes en phonèmes, versus mots irréguliers, qui est peut-être l'autre extrême, qui ne peuvent pas, dont la prononciation ne peut pas être calculée sur la base d'une conversion régulière entre graphèmes et phonèmes, et qui doivent donc passer par une voie plus profonde et lexicale. Nous avions aussi souligné que même sur le plan visuel, sur le plan de la capture de l'information visuelle, la voie ventrale visuelle ne suffit pas dans tous les cas, et que lorsque les mots sont dégradés, ou lorsqu'on a affaire probablement à des pseudomots qui, sur le plan des temps de réaction, donnent lieu à des effets sériels, des effets du nombre de lettres dans les mots, eh bien il y a certainement une contribution d'une forme de lecture attentive qui implique les régions pariétales, et en particulier pariétales postérieures. Donc toutes ces régions contribuent à la lecture, et maintenant je dirais le circuit est en place, même si je dois dire qu'il y a la localisation de ces régions correspond effectivement à des localisations obtenues en imagerie, mais les connexions entre ces régions doivent être prises avec un certain degré d'approximation. Il n'y a certainement pas toutes les connexions qui sont disposées sur ce graphe, et celles qui sont disposées sont des connexions, je dirais, approximatives ou hypothétiques dans l'état actuel de nos connaissances. Alors ce premier schéma, donc, d'un ensemble de régions importantes pour la lecture, nous allons maintenant discuter de la question de sa variabilité d'un système de lecture à l'autre. Depuis le départ de ce cours, j'ai mélangé des données provenant de différents laboratoires, des laboratoires américains, des laboratoires français, des laboratoires en Israël, et j'ai fait comme si ça ne faisait aucune différence et qu'on pouvait étudier la lecture dans tous ces pays de la même manière. Et aujourd'hui, nous allons nous demander si tel est bien le cas et en réalité, quels sont les aspects universels de la lecture dans le cerveau et quels sont les aspects plus variables. Et l'exposé de Johannes Ziegler, lors du séminaire, complétera très utilement, je crois, sur le même thème, ce que je dirais. En particulier, il parlera de la question de l'universalité ou non de la dyslexie et de la variabilité qui peut exister dans ce domaine entre les différents pays européens. Alors, comment aborder cette question de la variabilité culturelle? Je reviens à cette caricature qui nous montre que nous sommes mi-homme, mi-bête, peut-être, ou que nous sommes des primates, après tout, comme les autres, ou un peu comme les autres. Et vous rappelez donc que mon hypothèse, depuis le départ, c'est celle du recyclage neuronal. C'est l'idée que ces réseaux de la lecture, ce sont en partie des réseaux, notamment sur le plan visuel, qui n'ont pas évolué pour apprendre à lire, puisque la lecture est un objet culturel d'invention récente, mais qui doivent se recycler dans le domaine de la lecture. Alors, les conséquences de ce modèle pour la variabilité culturelle sont de plusieurs ordres et nous allons les explorer aujourd'hui. La première prédiction, c'est que, étant donné donc que l'architecture du cerveau humain n'a pas eu la possibilité d'évoluer pour la lecture, au moins sur le plan génétique, bien entendu, il y a une évolution épigénétique développementale au cours de l'acquisition de la lecture, mais ça veut dire peut-être aussi que, inversement, ce sont les systèmes d'écriture qui, eux, ont évolué. Il y a évidemment une évolution culturelle des systèmes d'écriture et ils ont pu évoluer à l'intérieur des contraintes imposées par l'architecture de notre cerveau. Et donc, il n'est pas impossible qu'il existe des universaux transculturels de l'écriture que l'on puisse relier à la nécessité d'un apprentissage facile par le cerveau du lecteur. Nous allons voir effectivement que, par-delà les variations de surface entre écritures, il existe en apparence des régularités qui peuvent peut-être se relier in fine à l'organisation de nos réseaux cérébraux. La deuxième grande prédiction, c'est qu'au cours de l'apprentissage, la difficulté de l'apprentissage d'un système d'écriture devrait dépendre de la quantité de recyclage et donc de la distance entre la fonction initiale du nerf cérébral au cours de l'évolution et la nouvelle fonction culturelle. Donc on devrait pouvoir comprendre la difficulté de certains apprentissages par le degré de recyclage, la quantité de modifications qui doit être induite dans les réseaux neuronaux et qui parfois sont des modifications qui vont contre l'organisation préexistante de ces réseaux neuronaux. Alors j'en parlerai un petit peu aujourd'hui, je pense que ce que dira Johannes Sigler sur l'apprentissage pourra peut-être être interprété dans ce sens, nous verrons, mais j'en reparlerai aussi la semaine prochaine puisqu'on parlera à ce moment-là plus du développement et j'essaierai de résumer ce qui a été dit dans le séminaire sur le développement de la lecture et la dyslexie. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la difficulté d'apprentissage dans le domaine spécifique de la lecture dépend de la complexité des règles, entre guillemets, des relations qui doivent être apprises et de leur adéquation à l'architecture de notre cerveau. Alors, voilà quelques exemples, c'est très superficiel, mais des systèmes d'écriture que l'on peut trouver dans le monde. Et la première chose qui frappe lorsqu'on regarde ces systèmes d'écriture, c'est évidemment leur très grande diversité. Sur le plan des alphabets, des syllabaires, c'est des systèmes que l'on peut appeler logographiques. Diversité des formes qui sont utilisées. Les plus anciennes utilisent souvent des formes que l'on peut reconnaître, des formes d'objets, mais d'autres utilisent des formes beaucoup plus abstraites. Certaines de ces écritures sont courbes, d'autres sont droites. Certaines de ces écritures se lisent de gauche à droite, d'autres se lisent de droite à gauche. Vous voyez qu'il y a une extraordinaire variabilité. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller au-delà de cette variabilité et de réfléchir aux aspects universels? Lorsqu'on prend cette attitude, eh bien, on s'aperçoit en réalité que beaucoup des contraintes dont je vous ai parlé dans le tout premier cours, notamment les contraintes visuelles sur l'identification des mots, se retrouvent dans ces écritures. Et c'est peut-être tellement évident que nous sautons tout de suite à l'étape suivante qui est de prêter attention à la variabilité des écritures. Mais si nous revenons en arrière, nous voyons qu'en réalité, il y a beaucoup de contraintes et beaucoup d'aspects communs dans toutes ces écritures. Et la première d'entre elles, c'est que l'acquisition des informations se fait d'une façon séquentielle, par le biais de saccades qui explorent la page, et l'information est répartie sous forme de mots. Donc nous acquérons dans tous les systèmes d'écriture des informations sur les mots. Deuxièmement, toutes ces écritures utilisent la fovéa, le centre de la rétine, pour présenter une haute densité. C'est très logique, puisque c'est là qu'on va pouvoir avoir une haute transmission des informations par le cerveau. Pour maximiser la vitesse de transmission de l'information, il semble que toutes ces écritures aient convergé vers la notion d'une écriture extraordinairement contrastée qui fait appel à des traits noirs sur fond blanc, par exemple. Ces traits, par ailleurs, ne sont pas organisés de façon extrêmement variable. Toutes les écritures reposent sur le choix d'un petit nombre de formes de base et d'une combinatoire qui génère les caractères. C'est le cas évidemment dans l'alphabet, c'est presque une définition d'un alphabet, mais c'est le cas aussi, de façon peut-être moins évidente, dans les caractères chinois, bien qu'il y ait plusieurs milliers de caractères chinois, et bien les traits de base qui servent à générer ces caractères sont en plus petit nombre. Et il y a donc la notion d'une hiérarchie. Enfin, et c'est peut-être un point qui nous paraît complètement évident, mais aucun système d'écriture ne prête attention à la position ou à la taille absolue des caractères. Tous les systèmes d'écriture considèrent que c'est normal que les écritures puissent se déplacer sur la page, que la taille des caractères puisse changer, et je vois là une trace évidente que les systèmes d'écriture exploitent notre système invariant de reconnaissance des formes. Donc l'invariance est déjà acquise, il n'y a pas besoin d'apprendre l'invariance. Et dans aucune classe du monde, on doit apprendre l'invariance pour la taille ou la position des lettres ou des mots sur le tableau. Alors, évidemment, ce sont des aspects un petit peu triviaux, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut trouver plus en profondeur dans l'organisation des systèmes d'écriture des caractéristiques visuelles qui sont un petit peu comme des régularités profondes derrière la variabilité superficielle ? Eh bien, un chercheur, Mark Shanzi, avec Shimojo, a publié récemment deux articles qui sont extrêmement intéressants, qui suggèrent qu'il y a beaucoup plus que cela, qu'il y a vraiment des régularités profondes dans les systèmes d'écriture. Et pour ce faire, il a analysé plusieurs dizaines, parfois centaines de systèmes d'écriture différents sur le plan quantitatif, en comptant les organisations de traits sur le plan donc strictement visuel pour l'instant, qui constituent ces écritures. Alors, le premier de ces articles est paru en 2005 dans la revue Proceedings of the Royal Society, et il examine l'organisation interne des caractères dans les systèmes alphabétiques et syllabiques, en excluant pour l'instant les systèmes comme le chinois, par exemple. Donc plus de 100 systèmes d'écriture différents, et le principe est d'examiner quelle est la composition interne des caractères. Par exemple, dans le cas de notre alphabet ici, on peut essayer de décomposer les caractères en traits élémentaires sur la base de courbures ou de discontinuités locales. Et la première chose extrêmement simple qu'il a faite, c'est simplement de compter combien de traits élémentaires sont présents à l'intérieur de ces caractères. Et une régularité très simple apparaît, c'est que tous les caractères dans le monde entier sont constitués d'un nombre de traits approximativement constant, qui va de 1 à 4 ou à 5, mais avec une moyenne qui tourne toujours autour de 3. Ce qui veut dire, bien entendu, que le répertoire de traits fondamentaux, lui, va augmenter. Mais les caractères donc, se construisent sous forme d'une hiérarchie. Il n'y a pas seulement ce principe d'hiérarchie, mais il y a aussi ce principe d'un nombre de caractères qui est d'un nombre de traits plutôt qui est limité. Alors, je pense que cette idée rentre tout à fait bien dans le modèle des détecteurs de combinaisons locales dont je vous ai parlé, puisque dans ce modèle, sur le plan neuronal, on sait qu'à l'intérieur de cette hiérarchie du cortex occipito-temporal, eh bien, à chaque étape, à chaque synapse, si vous voulez, qui permet d'avancer dans cette hiérarchie, il semble que les champs récepteurs augmentent d'un facteur 2 ou 3 et que la combinatoire de traits augmente d'un facteur 2 ou 3. Permet de créer des champs récepteurs de complexité supplémentaire. Donc par exemple, vous allez créer, on a parlé de ces hypothétiques détecteurs de bigrammes, eh bien vous allez les créer sur la base d'une combinatoire de 2 ou 3 lettres du niveau d'en dessous, en l'occurrence 2 lettres. De la même manière, les détecteurs de lettres, vous allez pouvoir les créer sur la base de combinatoires de traits élémentaires, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe même des données empiriques au plus bas niveau de cette hiérarchie. Je vous ai parlé en particulier des travaux de Chris Baker qui montraient qu'un neurone qui répond à une petite forme comme celle d'un F ou d'un T, on pouvait réduire sa réponse à la somme, avec un certain seuil, des réponses évoquées par des petites courbes qui chacune recouvre une partie de ce caractère. Donc 3 ou 4 courbes, dans le cas de Chris Baker, suffisaient à expliquer la reconnaissance d'un caractère. Donc je voudrais relier peut-être cette notion dans le modèle de Shanzi à l'existence d'une hiérarchie. Je pense donc qu'on peut transposer cette analyse. Pour l'instant, elle n'a été faite par Shanzi et Shimojo qu'au niveau des caractères élémentaires d'un alphabet, peut-être au niveau d'en dessous, c'est celui des traits élémentaires, donc peut-être les traits élémentaires d'un P, par exemple, eux-mêmes ont été choisis parce qu'au niveau d'en dessous, ils peuvent être représentés comme une combinaison d'environ 3 traits barres élémentaires qui sont reconnus peut-être dans l'aire visuelle primaire. Et de la même manière, au niveau du dessus, peut-être est-il pertinent que les morphèmes que nous choisissons dans notre culture pour représenter les préfixes, les suffixes, les racines des mots, eh bien, presque toujours font appel à une combinatoire qui est de l'ordre, effectivement, de 3 ou 4, peut-être 5 lettres, toujours ce nombre petit. Deuxième découverte de Shanzi et Shimojo dans cet article, c'est que la redondance est également à peu près fixe, et il existe une grande redondance dans les systèmes d'écriture, environ 50% de redondance, c'est une analyse mathématique que je ne décrirai pas, mais qui signifie qu'on peut en gros éliminer à peu près la moitié des caractères pour se retrouver au seuil de détection des lettres Donc, cet aspect-là également est universel à travers les Écritures. Il correspond bien à l'idée qu'on doit avoir un système de reconnaissance robuste, suffisamment redondant pour qu'avec un petit peu de bruit visuel, dans des conditions de rapidité de lecture, on puisse quand même reconnaître les mots. Mais l'article le plus intéressant de Changizi, c'est le second, et il porte sur les formes mêmes de l'écriture. Alors, ça pose une question extrêmement intéressante. Est-ce que les formes des lettres qui ont été choisies dans notre culture sont de simples accidents de l'évolution culturelle? On a tous en tête, je crois, cette notion que les formes de nos lettres peuvent être peuvent remonter dans l'histoire à des formes d'objets qui avaient été choisis. Bon, vous savez par exemple que la tête de bœuf ici, ou la tête de taureau, est évidemment un dessin tout à fait récurrent qui revient souvent dans les grottes préhistoriques, notamment à Lascaux, qui a été choisi dans les tout premiers alphabets, ces caractères proto-sinaïtiques, qui, à la suite de changements d'orientation, semblent être devenus, alors ces changements d'orientation qui sont liés à la manière d'écrire sur différents supports, est devenu la lettre A, dans laquelle on reconnaît encore la tête du taureau et les deux cornes, mais tournée de 180 degrés. Alors, suivant cette hypothèse, il s'agit simplement d'un accident particulier, culturel, qui fait que la forme de la lettre A a la forme qu'elle a. Mais me frappe tout de même le parallélisme entre cette idée historique et le travail que je vous avais montré de Tanaka et collaborateurs, qui montre que de la même manière, en simplifiant des dessins, on peut comprendre les préférences des neurones inférotemporaux. Je vous avais montré qu'un neurone inférotemporal qui répond, et Tanaka lui-même était venu exposer ses données dans le séminaire de Guy Orban, peut-être certains d'entre vous ont suivi cet exposé, et ce qu'il montre, c'est que si vous partez d'un neurone du cortex inférotemporal qui, chez le singe macaque, répond à la blouse blanche, par exemple, de l'expérimentateur vu de dos, ici, alors, l'ensemble de cette image, vous pouvez simplifier cette image jusqu'à garder des traits minimaux qui sont, par exemple, le disque noir au-dessus d'un disque blanc, ici, qui continuent de faire décharger le neurone au moins aussi bien que l'image de départ. Et on retombe donc sur des formes élémentaires qui font répondre les neurones du cortex inférotemporal ou auxquelles répondent les neurones du cortex inférotemporal qui forment comme une espèce d'alphabet neuronal de formes élémentaires pour la reconnaissance des objets. C'est-à-dire que des objets plus complexes vont être représentés par une distribution d'activité sur ces neurones plus élémentaires. Eh bien, si on fait ce parallèle, on peut imaginer qu'évidemment il y a eu simplification au cours de l'évolution culturelle, de l'évolution des écritures, pour conserver des formes qui soient les plus faciles à reconnaître, les plus faciles à écrire aussi, mais que cette simplification se produit sous la contrainte que ce code soit un code efficace pour la reconnaissance dans le cortex inférotemporal. Et donc, de la même manière que Tanaka, à l'échelle d'un scientifique, simplifie ses images en conservant les réponses des neurones, eh bien peut-être que l'évolution culturelle a simplifié les caractères tout en conservant une capacité d'avoir un bon code au niveau du cortex inférotemporal. Et je trouve que les travaux tout récents de Changizi vont tout à fait dans ce sens-là, puisque ce qu'il montre, c'est que si on analyse la composition interne des caractères, et là il analyse tous les systèmes d'écriture qui existent dans le monde, ou qui ont existé dans le monde, il y a aussi un aspect historique dans ce travail, eh bien il montre qu'il y a des formes universelles, ou en tout cas une distribution universelle de formes qui revient. Donc son travail consiste à prendre les caractères, à examiner leur structure interne, et à les classifier sous forme de topologie, d'intersection de traits différents. Donc, il va compter, tout simplement, quelles sont les configurations topologiques des contours à l'intérieur de ces caractères dans un grand nombre de systèmes d'écriture. Donc, par exemple, on va compter comme un T toutes les situations où, à l'intérieur d'un caractère, il y a une barre qui rejoint une autre barre en formant une intersection qui ressemble à un T, quel que soit l'angle particulier ou la longueur des traits. C'est une analyse purement topologique. Lorsqu'on fait cette analyse, il y a donc toute une série de topologies possibles des intersections. Et la découverte de Changizi, c'est qu'il existe une loi statistique absolument universelle qui existe à la fois dans les écritures non logographiques, alphabétiques ou syllabiques, mais aussi dans les écritures comme le chinois ou le japonais, logographiques, dites logographiques, et également dans l'écriture des symboles, par exemple les flèches ou les logos. Donc vous voyez cette distribution universelle, ce que ça signifie, c'est que certains de ces caractères sont choisis plus fréquemment que d'autres, certaines de ces configurations topologiques sont choisies plus fréquemment que d'autres pour constituer les configurations à l'intérieur des caractères de l'écriture. Alors on pourrait dire que peut-être il y a un côté un petit peu évident dans la mesure où certaines de ces configurations sont beaucoup plus complexes que d'autres, et c'est peut-être tout simplement la statistique qui veut que ces régularités se retrouvent plus fréquemment que d'autres. Alors, pour répondre à cette objection, Changizi effectue un certain nombre d'analyses supplémentaires. Il montre, par exemple, si on demande simplement à un sujet de gribouiller ou de faire des traits au hasard sur une feuille, sans que ce soit de l'écriture, sans qu'il y ait un système culturel derrière, eh bien, ces régularités ne se retrouvent pas. Donc, elles ne sont pas si évidentes que ça. Et de la même manière, si l'on jette au hasard des traits sur une feuille par un algorithme informatique et qu'on compte de façon objective quelles sont les distributions des topologies que forment ces traits, eh bien, on ne retrouve pas cette distribution. Donc, évidemment, c'est une analyse qui demande des précautions, peut-être qu'il y a une explication plus simple, mais il semble qu'il s'agisse vraiment d'une sélection particulière de configurations de traits à l'intérieur des différents systèmes d'écriture. En tout cas, c'est certainement une régularité qui est observée ici. Et Changizi va plus loin, puisqu'il montre que cette régularité existe également dans les images naturelles. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il existe donc une très très bonne corrélation entre la fréquence, donc le rang ici, tout ça, c'est plus simple de prendre le rang pour être non quantitatif, le rang observé dans les images naturelles et le rang observé dans les systèmes d'écriture. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fois dans les images et dans les systèmes d'écriture, par exemple, la configuration en T est extrêmement fréquente, alors que la configuration en Y l'est moins et d'autres configurations le sont encore moins. Il s'agit ici tout simplement d'analyser les images, d'extraire automatiquement leurs contours et d'analyser quelles sont les configurations de ces contours. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette corrélation ? Eh bien, elle va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais auparavant, c'est-à-dire que les configurations de contours qui sont les plus fréquentes dans le monde naturel, il est logique qu'au fil de l'évolution, et là il peut y avoir évidemment, il y a suffisamment de temps pour une évolution, donc elles peuvent être mieux codées au niveau du cortex inférotemporal, impliqués dans la reconnaissance des visuels des objets. C'est évidemment utile pour l'organisme de coder ces configurations qui reviennent dans le monde naturel. Et il faut souligner d'ailleurs que ce codage peut se faire à la fois à l'échelle de l'évolution des espèces, mais aussi à l'échelle de l'évolution d'un individu particulier. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas très bien dans les propriétés qui ont été observées par Tanaka, lesquelles sont en quelque sorte innées ou se représentent très précocement dans l'organisme et lesquelles sont dépendantes d'un apprentissage. Probablement beaucoup sont dépendantes d'un apprentissage. Mais la chose importante, c'est que ces propriétés se mettent en place pour la reconnaissance visuelle des formes naturelles, et ensuite, l'idée, c'est qu'elles pourraient avoir été cooptées par les systèmes d'écriture au cours de leur évolution culturelle, évidemment avec l'idée que c'est un répertoire neuronal qui est déjà présent et qui constitue donc un répertoire de formes très aisément reconnaissables. Autrement dit, on peut visualiser l'évolution culturelle, suivant ce schéma qui reste encore hypothétique, mais pour lequel, comme vous voyez, il existe quelques données, l'évolution culturelle serait une sorte de recherche semi-aléatoire de conditions qui sont appropriées pour une réponse efficace et rapide de notre système visuel à l'écriture. Alors évidemment, ces aspects universels ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a des aspects spécifiques à chaque système d'écriture et nous devons tout de même, même s'il y a ces régularités qui sont des régularités statistiques, nous devons tout de même, lorsque nous apprenons à lire, nous adapter à un système d'écriture particulier. Et je voudrais maintenant discuter, toujours sur le plan visuel pour l'instant, de l'adaptation à un système d'écriture particulier. En réalité, j'ai repris cette diapositive d'un des premiers cours pour vous rappeler que nous avions déjà vu qu'au sein des systèmes d'écriture alphabétique, ici c'est une expérience qui a été faite par Jeff Binder en anglais, eh bien, on peut montrer que le cortex inférotemporal s'est adapté aux régularités visuelles et orthographiques de l'écriture. Donc, je vous avais montré que la région occipito-temporale gauche, qu'on appelle la région de la forme visuelle du mot, eh bien, répond d'autant mieux que l'on présente des chaînes de caractères, des chaînes de lettres, qui respectent les régularités de l'anglais. Vous aviez cette hiérarchie de chaînes de lettres ici, qui respectent de façon croissante les probabilités de distribution des bigrammes en anglais, donc des paires de lettres en anglais. Et vous voyez que la quantité d'activation dans cette région augmente, donc cette région répond d'autant mieux que les statistiques des bigrammes sont respectées en anglais. Les statistiques des bigrammes sont propres à une langue, et donc on peut penser que cet effet ici traduit un effet de spécialisation corticale de cette région. Donc il y aurait un biais initial pour des formes appropriées, mais il y a certainement, bien entendu, un apprentissage statistique qui se fait au-dessus. Et cette notion d'un apprentissage propre à une langue donnée, propre à une écriture donnée, vient d'être démontrée dans un article qui est paru la semaine dernière du groupe de Nancy Kanwisher, en particulier Chris Baker, qui montre que confrontés aux mêmes stimuli, deux cerveaux différents, d'origine culturelle différente, vont avoir des réponses différentes. Donc, l'idée est très simple, c'est de pratiquer un examen d'IRM fonctionnel avec des lecteurs soit de l'anglais seul, soit des lecteurs à la fois de l'hébreu et de l'anglais. Ce n'est peut-être pas le contrôle le plus approprié, il aurait été encore plus joli, évidemment, d'avoir des lecteurs qui ne connaîtraient pas l'anglais, mais qui connaîtraient un nouveau système d'écriture, mais ici, on a plutôt affaire à des gens qui lisent deux écritures ou qui en lisent une seule. Alors, l'expérience a consisté à leur présenter toute une série de stimuli qui comprennent évidemment des mots en anglais, mais aussi des chaînes de consonnes, donc simplement ne respectant pas les régularités orthographiques de l'anglais, mais avec le bon alphabet, des mots en hébreu, des mots en chinois, des chiffres, des dessins au trait. Vous voyez ici cette série de stimuli. Et l'expérience est assez bien faite sur le plan méthodologique, puisqu'on commence par isoler une petite région sur la base d'une expérience en bloc, qui est indiquée ici à gauche, et ensuite on analyse uniquement les données d'une deuxième expérience qui est faite par événement. On regarde les réponses sélectives à chacun de ces événements. On présente un seul de ces objets d'écriture. Il y a plusieurs tâches, mais ça ne fait pas une différence énorme, donc j'en parlerai pas ici. On peut simplement demander au sujet d'examiner passivement ces stimuli, ou on lui demandait de détecter une répétition de ces stimuli, ou simplement de détecter un léger mouvement de ces stimuli. L'expérience est assez bien faite aussi sur le plan de l'imagerie, puisque c'est une expérience qui est faite avec une résolution tout à fait élevée, 1,5 mm par 1,5 par 2 mm de côté, et une analyse strictement individuelle des régions, c'est-à-dire que chaque sujet a sa petite région, et que les régions en question ici peuvent être très petites, et ces régions sont isolées au départ sur la base du fait qu'elles répondent plus aux mots qu'aux images d'objets. Une limite de ce travail, c'est qu'il ne considère que les régions visuelles, avec des coupes ici, qui passent dans le cortex occipito-temporal. Alors, le résultat est extrêmement simple. Vous voyez ici à gauche les lecteurs de l'anglais, les réponses de cette région chez les lecteurs de l'anglais, et à droite, les réponses de la même région, isolées par les mêmes critères, chez les lecteurs de l'anglais plus l'hébreu. Et vous voyez que presque tout est identique. Il y a une réponse qui est massivement différente, c'est la réponse aux chaînes de caractères en écriture hébreu. Vous voyez que là, c'est tout à fait massif. La réponse est en fait beaucoup plus forte même que la réponse aux mots anglais. Donc il y a un changement de réponse de cette région en fonction de la capacité de décodage par le sujet de cette écriture. C'est évidemment pas très surprenant peut-être, mais c'est joli de démontrer comme ça. Il y a beaucoup de points qui restent inexpliqués dans cette étude, et en particulier pourquoi la réponse est-elle plus massive dans les conditions de présentation de l'écriture hébreu ici. Je ne vois pas très bien d'autres explications que de penser qu'il s'agit uniquement de sujets qui ont été testés aux États-Unis et donc qui ont un système d'écriture majoritairement anglophone et qui se retrouvent ici avec une situation où on leur présente de façon inhabituelle une écriture rare. Donc peut-être que ça explique cette réponse prépondérante. En tout cas, c'est un des premiers travaux qui regarde à stimuli constants les changements induits par la culture. On va voir des exemples un petit peu similaires par la suite. Alors on peut se demander si ces réponses de la région de la forme visuelle des mots sont strictement propres au système alphabétique, ou s'il y a également des réponses similaires dans le cas d'écriture en caractères, comme le japonais par exemple. Et nous avons fait une expérience à ce sujet il y a quelques années avec Kimiro Nakamura, qui montrait très clairement que même chez des lecteurs du japonais, la même région s'active avec des coordonnées extrêmement proches. Lorsqu'ils lisent, vous savez qu'en japonais il y a plusieurs systèmes d'écriture, et lorsqu'ils lisent à la fois les caractères kanji, qui réfèrent à des mots, des racines de mots, et les caractères kana, qui réfèrent à des syllabes. Donc, que le système soit un système de syllabaire, qu'il soit un système alphabétique, qu'il soit un système logographique, si l'on veut, eh bien, vous voyez que l'activation, dans tous les cas, se concentre dans la région occipito-temporale gauche, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence. Et nous avions aussi regardé les différences entre ces systèmes d'écriture, et il existe des différences, évidemment elles sont beaucoup plus petites, donc l'échelle de couleur n'est pas la même dans les deux images ici, hein. mais il existe des différences entre les systèmes d'écriture, et en particulier dans cette expérience, nous avions pu montrer que la lecture des caractères kanji active un petit peu plus des régions à la fois plus mésiale, donc plus proche de la ligne médiane du cerveau, mais aussi plus bilatérale, avec, vous voyez, une activation assez forte du côté droit, ici. Un des coordonnées sont un tout petit peu, pour ceux qui connaissent bien les coordonnées du système de Talleyrand, un tout petit peu en avant du pic d'activation de la région de la forme visuelle des mots. Donc cette région semble répondre un petit peu plus au kanji qu'au kana, et inversement, nous avions une autre région plus postérieure qui répondait plus au kana qu'au kanji. L'explication exacte de ces petites différences n'est pas complètement comprise, mais ça va dans le sens de penser qu'il y a un vaste système commun et des petites différences liées à l'organisation peut-être strictement visuelle à ce niveau des caractères dans l'un ou l'autre système d'écriture. Et ça explique le fait que dans la neuropsychologie, il existe des cas, qui sont relativement rares, de dissociation avec des patients qui sauraient encore lire le kana, mais pas le kanji, ou l'inverse. Néanmoins, on peut montrer quand même que l'organisation est très largement la même chez les sujets japonais. Et pour ce faire, nous avions utilisé la méthode d'amorçage, dont je vous ai souvent parlé au cours de ce cours, en essayant de voir s'il y avait effectivement une forme d'amorçage par la répétition des mêmes mots chez les sujets japonais, comme nous l'avions trouvé chez les sujets français. Évidemment, chez les sujets français, si vous vous souvenez, nous avions fait cette expérience où le mot amorce, qui est présenté très brièvement, était un mot, par exemple, en minuscule, et le mot cible était un mot en majuscule. Et on avait montré que la région de la forme visuelle des mots généralisait de minuscule à minuscule et vice-versa. Ici, on peut aller plus loin et on peut se demander est-ce qu'il va y avoir la possibilité et quelles régions cérébrales vont généraliser entre les deux systèmes d'écriture syllabique versus logographique en japonais, donc du kana au kanji ou du kanji au kana. Donc on a fait ces expériences où le mot amorce qui est présenté très brièvement et qui est masqué, qui n'est pas vu par les sujets, peut être écrit en kana ou en kanji, et de même pour le mot cible. Le sujet faisait une tâche de classification pour dire si les mots cibles qui étaient visibles étaient naturels ou artificiels, et les temps de réaction ont montré effectivement un effet d'amorçage qui était totalement indépendant de l'écriture qui était présentée en entrée. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça suggère que même de façon subliminale, le cerveau des sujets a extrait un code qui est invariant pour le système d'écriture particulier qui a été présenté ici en entrée. Vous voyez que même lorsque, je crois que ce sont les deux colonnes du milieu, même lorsque l'amorce est en kanji et la cible en kana, eh bien, il y a une réduction du temps de réaction lorsqu'on voit deux fois le même mot que lorsqu'on voit deux mots différents. Alors ensuite, par l'imagerie cérébrale, nous avions pu aller voir qu'est-ce qui se passait. Et de façon intéressante, ça montrait une dissociation entre deux régions. Il y a, donc si on regarde cette image qui représente l'effet d'amorçage global lorsqu'on répète deux fois les kanji, donc c'est une répétition qui est à la fois physique, orthographique, lexicale, tous les niveaux sont répétés, on voit plusieurs régions s'activer, et vous voyez que l'une d'entre elles, c'est notre fameuse région occipito-temporale ventrale, et lorsqu'on va voir à l'intérieur de cette région, eh bien, on voit que cette région ne répond qu'à la répétition du même système d'écriture, kanji suivi de kanji. Ce que ça signifie, c'est que cette région, conformément aux analyses chez les sujets qui lisent l'alphabet, code pour un niveau que l'on pourrait qualifier d'orthographique ou de visuel abstrait. Donc elle code pour la forme des caractères kanji, mais elle n'a pas un code qui est commun entre la forme des caractères kanji et la forme des caractères kana. C'est différent pour l'autre région, qui est ici plus temporale moyenne, qui, elle, était la seule à montrer un effet de convergence entre les deux systèmes de notation en japonais. Donc cette région réduit son activité quand on présente des caractères, même si les deux notations sont différentes. Elle reconnaît qu'il s'agit du même mot, même si les notations d'entrée sont différentes. Et on peut penser donc qu'il s'agit d'un niveau de représentation plus abstrait, qui n'est plus visuel. Et comme vous le voyez, cette région tombe dans la région temporale moyenne gauche, dont nous avions vu la semaine dernière qu'elle est associée au niveau de traitement lexico-sémantique des mots par beaucoup d'études. Donc à ce niveau, il semble qu'on puisse accéder à ce niveau de façon subliminale, ce qui est intéressant. À ce niveau, le système d'écriture qui est utilisé en entrée ne semble plus faire de grosses différences. Donc jusque-là, nous avons la notion d'une très grande universalité de ces réseaux d'entrée dans le système d'écriture, même s'ils s'adaptent évidemment à la forme particulière des caractères, ce sont toujours les mêmes régions qui s'adaptent. On peut aller plus loin et se demander si ce serait le cas aussi si on apprenait de novo à des lecteurs adultes un nouveau système orthographique. Et cette expérience a été faite dans un article de Neurone avec l'apprentissage de nouvelles correspondances que l'on peut qualifier de correspondances graphème-phonème. L'expérience a consisté sur deux jours, avec de l'imagerie fonctionnelle, à entraîner des sujets japonais à lire des caractères en notation Hangul, qui est utilisée en Corée et qui était totalement nouvelle pour les sujets. Et l'expérience comprenait plusieurs conditions expérimentales. À chaque fois, on présentait plusieurs caractères et ensuite un son. et le sujet devait se préparer en lisant mentalement ces caractères et ensuite dire si le son était approprié ou pas à cette chaîne de caractères. Donc évidemment, lorsqu'il s'agit des caractères kana, ici, le sujet japonais n'a pas de difficulté particulière à dire si oui ou non cette chaîne est bien akomi. Mais il apprenait à faire exactement la même chose avec les caractères hangul. Vous voyez, il y a trois caractères hangul ici, et à la fin, le sujet recevait une chaîne de parole et devait, là encore, essayer de dire si c'était la bonne ou pas. Il apprenait progressivement à le faire. Puis il y avait des conditions contrôle dans lesquelles le sujet voyait des caractères hangul et entendait simplement des chaînes de son. Ça veut dire le niveau de pitch, donc le niveau de fréquence des tons qui étaient utilisés ici variaient et devaient être associés à la forme des caractères. Donc, ça n'est plus une information verbale ici. Et même chose avec des stimuli qui ne sont pas du tout des caractères. Donc ça, ce sont les tâches qui étaient utilisées comme contrôle pour soustraire les activations correspondantes dans l'imagerie cérébrale. Alors, les résultats étaient intéressants parce qu'ils montraient que progressivement, à mesure qu'on fait cet apprentissage de correspondance graphème-phonème nouvelle, eh bien, on recrute un réseau qui ressemble à celui qui est recruté pour la lecture. En particulier, donc, vous avez ici le réseau donc, qui est recruté pour cet apprentissage du hangul et qui inclut, vous voyez très nettement, la région occipito-temporale ventrale gauche, le gyrus angulaire, le cortex préfrontal, latéral et inférieur. Une partie de ces régions recouvrent totalement celles qui sont activées lors de la lecture des caractères japonais. Vous le voyez ici, ce sont ici le code, ça veut dire kana, associé avec speech, hein, donc kana associé à la parole. Et vous voyez que le réseau ici qui est mis en jeu est en partie recouvrant avec celui qui est mis en jeu dans la tâche nouvelle avec la notation hangul. En fait, l'image d'en bas vous résume les activations qui sont communes et les activations qui sont différentes. Et vous voyez qu'il y a une série d'activations communes qui sont en rouge, mais il y a aussi des activations assez différentes dans le cortex temporal qui sont en bleu, qui sont nettement plus actives. Cette région est nettement plus activée par les caractères connus, kana, que par les caractères nouveaux, hangul. Et on peut imaginer qu'il s'agit ici d'une trace de l'automaticité qui n'est pas encore en place de la conversion de ces caractères en son dans les deux écritures. Alors, évidemment, comme ils ont deux images successives d'activation, ils peuvent aussi examiner qu'est-ce qui change avec cet apprentissage dans le cerveau des sujets. Et il y a plusieurs points qui changent avec l'apprentissage. Le premier, c'est que l'activation de la région occipito-temporale gauche, donc la région de la forme visuelle des mots, augmente avec l'apprentissage. Ce que vous voyez ici sur ce graphe, donc la condition clé, c'est la condition hangul speech, qui est le nouvel apprentissage qui est fait par les sujets. Entre le premier jour et le deuxième jour, vous voyez qu'il y a une augmentation, et une augmentation en particulier avec de la différence avec la condition hangul noise, qui est la condition de contrôle ici. Vous voyez que la condition kana, par contre, change peu, et dans cette région, il y a peu d'activation pour le kana. D'abord, pour terminer sur cette augmentation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prédit les performances des sujets. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur ce graphe ici. Vous pouvez mesurer la quantité d'augmentation d'activation dans cette région et avoir un excellent index de l'amélioration des performances des sujets. En abscisse, ce sont le changement des performances, donc le pourcentage de réponses correctes qui augmente avec l'apprentissage. Et en ordonnée, vous avez le pourcentage d'augmentation du signal dans cette région. Donc on a un marqueur direct d'apprentissage d'un nouveau système d'écriture et il met en jeu la même région, presque la même région. C'est l'aspect le plus surprenant de cette étude, c'est que ce n'est pas tout à fait la même région qui est mise en jeu dans les deux apprentissages. Et ça attire notre attention sur le fait que dans les années futures, il faudra sans doute faire des études de haute résolution pour comprendre si c'est vraiment exactement les mêmes régions qui sont impliquées lorsqu'une personne maîtrise plusieurs systèmes d'écriture, ou bien si on peut imaginer qu'il y ait plusieurs petites régions, côte à côte, peut-être croisées, mélangées dans le même secteur. En tout cas ici, si je me souviens bien du code, donc je vous ai montré la région verte donc, qui augmente avec l'apprentissage. Vous avez une région qui répond plus au hangul qui est en rouge, et vous avez une région qui répond plus au kana qui est en bleu. Ici. Vous voyez qu'elles sont très proches dans la même région occipito-temporale ventrale gauche, mais quand même avec des petites différences qui sont mesurables, qui ne sont pas encore bien comprises. Le dernier point, c'est qu'il y a des changements également de la connectivité de ces régions entre elles au fil de l'apprentissage, et en particulier, au cours de l'apprentissage, la corrélation fonctionnelle entre cette région dont je viens de vous parler et le gyrus angulaire augmente. On le voit ici très bien, donc la corrélation, le pic de corrélation se déplace, vous voyez, ici vers la droite, au fil de l'apprentissage entre ces régions qui sont marquées sur la figure ici. On voit effectivement l'augmentation de cette corrélation, ce sont des images de corrélation ici. Donc en conclusion, cette étude est l'une des premières, mais je pense qu'il y en aura d'autres, qui montrent chez l'adulte comment se met en place une voie de transcodage graphème-phonème nouvelle avec l'apprentissage d'un nouveau système d'écriture. Et la conclusion que je tirerai, c'est que cela fait intervenir les mêmes voies anatomo-fonctionnelles avec de toutes petites différences près, différences qui sont évidemment importantes, mais qui ne doivent pas cacher le caractère extrêmement généralement commun de tous ces systèmes d'écriture. Je pense que c'est un résultat qui n'est pas du tout évident au premier abord. On aurait pu penser qu'avec la diversité des systèmes, la diversité aussi des méthodes d'enseignement, on se serait attendu peut-être à une beaucoup plus grande variabilité. Alors, je reviens à la question de l'universalité des écritures. On a parlé de ces différents points et même de la possibilité que les formes des caractères soient plus universelles qu'on le pense au départ. Il faudrait aborder maintenant, au-delà de la forme visuelle des systèmes d'écriture, la question de ce qu'elle dénote. Et là, c'est évidemment une source de variabilité importante. Vous savez que tous les systèmes d'écriture, bien entendu, dénotent les sons de parole, mais la nature de l'unité qui va être codée est assez différente depuis les phonèmes ou les syllabes, comme on vient de le voir, mais aussi dans le hangul, ce sont en réalité les traits phonétiques qui sont la base du système d'écriture, donc une notion extrêmement fine du système de parole. Et puis tous les systèmes d'écriture aussi vont coder, et de façon avec des proportions variables, les unités sémantiques qui sont évidemment la base de la compréhension du signal de parole, et en particulier les morphèmes. Donc lorsqu'on réfléchit par exemple à la structure orthographique de l'anglais, eh bien il y a un mélange d'un codage morphémique et d'un codage des sons de parole. Et la raison de la très grande opacité de la lecture en anglais, c'est que souvent les unités morphémiques sont privilégiées au détriment plutôt d'une capacité de décodage graphème-phonème qui est relativement fluide. Ce qui est intéressant, c'est que cet aspect-là pourrait lui aussi être plus universel qu'on le pense et correspondrait bien à l'idée que cette région de la forme visuelle des mots est capable d'irriguer à la fois des régions codant pour le son et codant pour le sens. Je ne connais pas très très bien le système d'écriture en chinois, mais en lisant ce livre de John DeFrancis, qui de façon intéressante s'appelle, on pourrait traduire, l'unité dans la diversité des systèmes d'écriture, eh bien, il suggère que même en chinois, il y a aussi cette notion d'un double code, à la fois phonologique et morphologique. Et il souhaiterait qu'on ne cesse d'appeler ces systèmes logographiques, mais qu'on les appelle morphosyllabiques. L'idée étant que dans des caractères chinois, très souvent, vous avez des marqueurs à la fois des unités de sens, comme par exemple ici le caractère pour soleil, et des unités sonores qui guident en partie, et après tout, ce n'est pas si différent de l'anglais, en partie seulement, la prononciation des caractères. Donc ici, ce caractère complet veut dire en anglais « sunshine », donc la lumière du soleil, vous voyez qu'il est composé de sous-caractères dont l'un signifie soleil et dont l'autre signifie vert, ce qui a priori soleil vert, ça n'a aucun rapport, mais en réalité c'est la prononciation de ce caractère, king, qui permet de guider la notion de la prononciation du caractère complet. Il semble que cette situation soit relativement fréquente en chinois et donc qu'il y ait là aussi peut-être une certaine forme d'universalité. En tout cas, l'universalité ne doit pas cacher la diversité non plus, et on s'accorde maintenant à classifier les systèmes d'écriture suivant plusieurs dimensions qui sont représentées ici. La première d'entre elles, c'est ce qu'on pourrait appeler la taille des unités qui sont représentées, j'en ai parlé un petit peu. Donc depuis l'écriture de mots entiers, certainement c'est le cas des caractères kanji et des caractères chinois, la syllabe dans les syllabaires, ou le phonème dans le cas de nos alphabets, peut-être il aurait fallu représenter donc ce système très inhabituel qui représente même les traits phonétiques et le hangul. Mais le caractère tout entier représente un phonème ou même une syllabe lorsqu'il est regroupé. Et puis, il y a cette deuxième dimension qui est extrêmement importante, et je suis sûr que Joe Ziegler va en parler par la suite, qui est la dimension de transparence orthographique. C'est-à-dire que, suivant les langues, même au sein des systèmes alphabétiques que nous connaissons bien, donc toutes ces langues ici utilisent le même alphabet, eh bien, il va y avoir une variabilité dans la nature des correspondances graphème-phonème et dans leur régularité. Donc, vous savez qu'en italien, lorsque vous maîtrisez la prononciation des caractères individuels, des lettres individuelles, eh bien, essentiellement, vous pouvez lire l'ensemble des mots en italien. C'est dans une très large mesure le cas également en allemand. Ça n'est pas le cas en français, ou beaucoup moins le cas en français, et encore moins le cas en anglais, où il y a évidemment des régularités graphème-phonème, mais il y a aussi un extrêmement grand nombre d'exceptions. Pour donner un exemple très simple, pensez au mot « oignon ». Je vais parler la semaine dernière dans le cas des exemples de mots irréguliers. Il est impossible de dériver la prononciation du mot « oignon » sur la base de son orthographe. On ne peut en dériver qu'une prononciation très approximative, partielle. Même chose, il y a des centaines de mots en français qui ont ce type d'irrégularité. Alors, ces dimensions jouent un rôle important dans l'organisation cérébrale des systèmes d'écriture, mais aussi dans leur apprentissage. Cette carte ici est intéressante, elle montre, elle reflète la difficulté d'apprentissage des systèmes d'écriture en vous montrant le taux d'erreur de lecture de mots en fin de première année d'apprentissage de la lecture. Et vous voyez que la variabilité est absolument considérable. Essentiellement, si on a la malchance d'apprendre à lire en anglais, en fin de première année, on ne sait pas lire 67% des mots qui sont présentés. En français, on ne sait pas lire 28% des mots qui sont présentés. En Italie, c'est fait, on sait lire, il y a seulement 5% des mots qui ne sont pas lus convenablement. Cette variabilité considérable, vraiment, corrèle avec la transparence orthographique de ces différentes langues. Et de la même manière, elle se préserve au fil des années, dans ce travail d'Usha Goswami et collaborateurs ici, vous voyez, au fil des années, pour une comparaison de l'anglais, du français et de l'espagnol. L'espagnol est une langue également très régulière, et vous voyez que la différence se maintient, et si on interprète ce graphe, on peut dire qu'un lecteur de l'anglais met à peu près 2 ans de plus pour arriver au niveau qu'avait un lecteur du français, et ces deux groupes d'enfants ont des difficultés nettement supérieures causées exclusivement par la plus grande irrégularité de l'orthographe de leur langue par rapport à l'espagnol, par exemple. C'est évidemment un argument extrêmement fort au passage pour la possibilité d'une réforme de l'orthographe, mais on n'en parlera pas aujourd'hui de peur d'irriter. Alors, est-ce que ces différences culturelles font une différence au niveau cérébral? Eh bien, ce travail de Eraldo Paulesu, qui est très connu, je voudrais rappeler ici, le montre directement. Il a comparé avec toutes sortes de collègues, donc des collègues français. Non, c'est un autre travail qui avait été fait avec des collègues français, mais ici avec des collègues italiens et des collègues anglais. Ils ont comparé en caméra positon la lecture chez des lecteurs de l'italien et de l'anglais. Et le premier point, c'est que sur le plan simplement de la vitesse de lecture, ils avaient observé que conformément à cette notion d'une transparence orthographique plus grande, eh bien, la lecture de mots et de pseudo-mots est nettement plus rapide, significativement plus rapide en italien qu'en anglais. Mais ils ont aussi regardé l'activation cérébrale et les résultats sont extrêmement intéressants puisqu'ils montrent à la fois l'unité et la diversité. L'unité, c'est ce réseau commun qui est massif et vous voyez qui regroupe un grand nombre des régions dont on parle depuis le départ de ce cours, et en particulier, bien entendu, la région occipito-temporale ventrale, mais aussi les régions du lobe temporal moyen et supérieur, les régions frontales inférieures gauche. Et à l'intérieur de ce réseau, eh bien, ils observent des petites différences qui sont liées à la culture et à l'écriture qui est maîtrisée par les sujets. Quelles sont ces différences? En italien, si on compare donc, et on regarde quelles sont les activations plus fortes en italien qu'en anglais, eh bien, les Italiens activent un petit peu plus les régions temporales supérieures gauche, la région temporale supérieure gauche. C'est à peu près précisément là où, dans l'expérience précédente, on voyait plus d'activation pour la langue maîtrisée par les sujets kana que pour la langue qui commençait à apprendre, le hangul. Vous voyez que cette activation correspond bien à l'idée d'un accès à la phonologie qui est plus facile, donc d'un accès à la prononciation des mots, qui est beaucoup plus facile dans une langue régulière que dans une langue irrégulière. Je vous montrais la semaine précédente ces expériences sur les deux voies de lecture, eh bien on pourrait dire que les lecteurs de l'italien ici ont un accès plus facile, privilégié à la voie de lecture de surface par transcodage graphème-phonème. Inversement, et c'est très cohérent, les lecteurs de l'anglais ont plus d'activation dans deux autres régions. Ils ont plus d'activation dans cette région frontale inférieure gauche ici, qui est relativement antérieure dans l'aire de Broca et qui correspond à un endroit où on trouve des différences d'activation lexico-sémantique. Et donc, c'est l'idée que chez eux, c'est la deuxième voie de lecture qui doit être privilégiée, sachant que les correspondances graphème-phonème sont moins faciles à mettre en œuvre en anglais. Ils doivent passer de façon prépondérante par une voie plus profonde. Et pour ce faire, il semble qu'il y ait aussi plus d'activation dans la région de la forme visuelle du mot, dans sa partie la plus antérieure. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant, parce que ça pourrait vouloir dire qu'au sein même de cette région, la nature de ce qui est appris par les sujets n'est pas exactement la même chose en anglais et en italien. Même si les lettres, évidemment, sont les mêmes, il se pourrait, c'est l'hypothèse principale pour expliquer ces résultats, que les lecteurs de l'anglais doivent apprendre des unités d'ordre supérieur, peut-être des combinaisons de bigrammes ou des combinaisons encore plus grandes. On peut penser par exemple, je ne sais pas, à OUGH en anglais, qui est une unité, et même avec OUGH, on n'a pas encore tout à fait la prononciation des mots, mais évidemment c'est un groupe de lettres qui joue un rôle important pour retrouver l'accès au lexique de ces mots. Donc on peut penser que même si la région est la même, et vous voyez qu'elle est très fortement activée de façon commune en anglais et en italien, son organisation fine, son contenu fin, si on pouvait aller voir l'organisation neuronale fine, serait assez différent avec des groupes de lettres qui sont codés, qui ne sont pas les mêmes dans les deux langues. Et c'est assez frappant de ce point de vue-là de voir que c'est la partie la plus antérieure de la région de la forme visuelle des mots qui est concernée, puisque c'est là qu'on devrait trouver, d'après le modèle hiérarchique que je vous ai proposé, la réponse à des groupes de lettres plutôt qu'à des lettres isolées. Je terminerai par mentionner cet article récent qui va plus loin en proposant une méta-analyse des différents articles qui, à la suite de celui de Paolesu, ont comparé la lecture dans différents systèmes d'écriture. Donc, il y a maintenant toute une littérature, puisque nos collègues chinois sont extrêmement actifs dans ce domaine et publient des images de l'activité cérébrale de la lecture du chinois. Évidemment, le travail en anglais est prépondérant, mais il y a aussi beaucoup de travaux qui sont menés en français, qui sont menés dans d'autres systèmes d'écriture, en japonais. Et donc, cette méta-analyse se propose d'examiner de façon assez large ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de différent entre ces différents systèmes. Alors, la méthodologie est intéressante également. Ils ont donc collecté les données publiées dans différents systèmes d'écriture. Et un problème avec ce type d'analyse, c'est que ce qui est publié, en général, ce ne sont pas les images elles-mêmes. C'est dommage, d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait des banques de données d'images d'activation cérébrale. Mais souvent, ce qui est publié, c'est uniquement les coordonnées des pics d'activation. Alors, ils sont partis de ces pics d'activation et ils ont, les ont regroupés en trois grandes catégories. Les systèmes alphabétiques, anglais, occidentaux, le système chinois et la lecture japonais, en regroupant, ce qui est peut-être contestable, les kanji et les kana. On a vu qu'il n'y avait pas tant de différence que ça dans notre étude. Alors, ils partent donc de ces coordonnées et ils essayent de reconstituer une analyse au niveau du cerveau entier en effectuant un lissage avec une fonction gaussienne qui donc élargit, partant de ce pic, élargit à toute une activation, toute une région, et en moyennant ensuite ces études entre elles. C'est une technique intéressante parce que ça permet de passer de cet espace discret des coordonnées, de revenir dans cet espace du cerveau tout entier en trois dimensions et de regarder s'il y a des recouvrements entre régions, même si le pic exact des coordonnées n'est pas le même. Alors ensuite, ils font un test statistique pour savoir ce qui est significativement différent, d'abord significativement activé, et puis ensuite significativement différent d'un système d'écriture à l'autre. Et ils le font simplement par rapport à une distribution aléatoire qui est l'hypothèse nulle, qui est de mélanger aléatoirement les coordonnées entre elles. Alors sur la gauche, vous voyez donc quelques-unes des coupes qui vous montrent les résultats les plus importants de cette analyse. Et le premier point, c'est à quel point il y a un excellent recouvrement des activations dans la région occipito-temporale gauche, la fameuse aire de la forme visuelle des mots. Vous voyez que là, vraiment, la convergence est excellente, non seulement sur la localisation générale, parce qu'après tout, c'est une région assez vaste, mais même sur la position extrêmement précise de cette région. Et que les coordonnées dans les différents systèmes d'écriture, ici, se retrouvent avec une variabilité qui est remarquablement faible. Il reste à trouver encore s'il y a un principe d'organisation à l'intérieur de cette région, mais il semble que la culture particulière, le système d'écriture particulier, ne fasse pas de différence dans cette région. Et ça nous amène naturellement à la question de l'origine de ces différences, plutôt de cette localisation extrêmement reproductible, et de ces différences avec d'autres catégories d'objets. Je vous avais parlé les semaines précédentes du fait que les visages, par exemple, font appel à des régions qui sont proches mais qui ne sont pas les mêmes que celles qui répondent aux mots, que des objets, les outils, par exemple, les objets manufacturés font appel encore à d'autres régions, que les maisons font appel à d'autres régions. Et il y a là quelque chose à expliquer qui a à voir avec la structure initiale de ce cortex qui fait que différentes régions de ce cortex ne sont pas autant appropriées les unes que les autres pour apprendre différentes formes visuelles, et en particulier les formes visuelles des caractères se retrouvent systématiquement dans une région particulière. Il n'y a pas pour l'instant de bonne compréhension de cette topographie. Il y a simplement l'hypothèse que l'espace des formes peut être peut-être représenté par des fonctions de base qui sont biaisées de façon différente. Peut-être il y a un biais, par exemple, plus holistique pour l'hémisphère droit que pour l'hémisphère gauche, une hypothèse qui est fréquemment faite, qui n'est pas très précise, mais pourrait correspondre à l'idée d'une réponse des neurones à des caractères plus globaux de l'image, pour expliquer la différence entre visage et mot, visage plutôt à droite, mot plutôt à gauche. Il y a la notion d'une hiérarchie dont je vous ai parlé, qui explique bien la dimension antéro-postérieure de cette activation. Donc elle se trouve à un niveau hiérarchique bien particulier, qui correspond au codage possible des lettres, des combinaisons de lettres et des mots. Et puis, il y a la position précise au sein de l'hémisphère gauche, qui là n'est pas du tout comprise, mais on pense qu'il doit y avoir un biais qui n'est pas encore compris, et que peut-être ces fameuses intersections topologiques de courbes, dont je vous ai parlé au départ, vues par Changizi, eh bien, pour une raison liée à notre évolution, ont tendance à être représentées de façon spécifique dans cette région-là, avant même que nous ayons appris à lire. En tout cas, il doit y avoir un biais, vraisemblablement un biais d'origine génétique, puisque cette région se retrouve toujours systématiquement au même endroit. Si c'était simplement une brisure de symétrie au cours du développement, ça ne serait pas le cas. Il y a vraiment là du travail pour la recherche, pour expliquer cette spécificité remarquable. Maintenant, intéressons-nous aux autres régions. Oui, alors d'abord, on peut mentionner quand même, vous voyez, qu'il retrouve dans cette méta-analyse que nous avions trouvée avec les kanji, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'activation dans l'hémisphère droit pour les caractères chinois, de la même manière que nous avions trouvé spécifiquement pour les caractères kanji, ce qui n'est pas visible dans cette analyse, puisqu'ils sont regroupés kanji et kana ici. Alors, là encore, personne ne connaît très bien l'origine de cette différence. Il est possible que ça ait à voir avec l'arrangement spatial plus global des caractères chinois. Mais maintenant, si on s'intéresse donc aux autres régions, il y a des régions qui sont également plus variables d'une culture à l'autre. Et notamment, donc, si on s'intéresse d'abord à la région qui est en rouge ici, sur cette image, la région temporale inférieure et temporale supérieure. C'est la région qui est encadrée de rouge ici, donc on se situe dans la région du sillon temporal supérieur, et je crois qu'il y a une région pariétale inférieure qu'on ne voit pas très bien ici. Eh bien, ces régions donc, qui seraient impliquées dans le traitement phonologique, vous voyez qu'elles interviennent dans le codage, en particulier en anglais. Il y a aussi une assez forte activation dans le japonais, mais quand même moindre, et un petit peu en arrière. Et donc, il y a la possibilité peut-être, et vous voyez qu'il y a peu d'activation en chinois dans cette région, hein, ce n'est pas quelque chose qui est retrouvé systématiquement dans les études en chinois, donc ça crée une différence ici. Et donc la possibilité que l'accès à la phonologie, conformément à cette notion d'un codage d'unité de nature différente dans les différents systèmes d'écriture, soit plus facile par des systèmes alphabétiques. C'est évidemment tout à fait naturel, puisque l'alphabet, c'est une invention spécifique pour accéder plus directement à la structure phonologique de la langue. On voit sur ces images qu'il y a la possibilité peut-être à poursuivre dans des études ultérieures, d'une différenciation légère dans cette région entre des activations plus antérieures pour les systèmes alphabétiques et un peu plus postérieures pour des unités de taille supérieure. Donc il y a peut-être là aussi des différences culturelles très fines à regarder, mais il faudrait les regarder chez les mêmes sujets. Si l'on regarde également les autres régions, alors là il y a un phénomène qui est rapporté dans la littérature depuis seulement quelques années, qui est l'idée d'une activation plus antérieure des régions frontales, inférieures et dorsolatérales gauches, en chinois par rapport à d'autres systèmes d'écriture. Et vous voyez que c'est très très net ici, les activations en chinois sont rapportées à des points nettement plus antérieurs que dans les autres systèmes d'écriture. Là encore, ce point n'est pas totalement expliqué, mais il est répliqué de plusieurs manières différentes, et l'interprétation n'est pas univoque. Les auteurs évoquent la notion d'une phonologie adressée, c'est-à-dire d'unité phonologique qui serait de taille supérieure à celle du phonème, qui serait un lexique phonologique. Et donc, ce n'est pas illogique de penser qu'il y a là une organisation antéro-postérieure et qu'on recule vers le cortex moteur à mesure qu'on descend vers des unités articulatoires de plus petit niveau. Donc, l'alphabet qui coderait des unités de petite taille ferait intervenir les régions les plus postérieures, alors que des systèmes qui s'adressent à la phonologie de façon plus globale feraient intervenir des régions plus antérieures. Il y a une toute autre possibilité, et ça vous montre à quel point ces données sont vraiment récentes et peu encore comprises, hein, c'est la possibilité d'une mémoire gestuelle du caractère, puisque reconnaître un caractère en chinois ou en japonais, c'est aussi très souvent reconnaître les traits qui ont conduit à l'écriture de ce caractère. Et il n'est pas rare de voir, lorsqu'un lecteur découvre un caractère qui est un peu rare, qu'il trace avec sa main, ou mentalement, mais avec de très légers mouvements de la main, l'organisation de ce caractère. Et cette région est proche d'une région que la neuropsychologie a isolée, qui s'appelle la région d'Exner, qui serait impliquée dans les mouvements de l'écriture. Donc, il n'est pas impossible que le codage des mouvements de l'écriture joue un rôle plus important dans la lecture, un peu paradoxal, mais l'idée qu'il faut reconstituer le mouvement de l'écriture et que c'est plus utile pour la lecture des caractères chinois, peut-être, que pour la lecture des caractères imprimés alphabétiques. Ça pose une question également intéressante que nous commençons tout juste à explorer avec Laurent Cohen et d'autres collaborateurs, Émilie Thiao notamment, c'est la question de l'écriture manuscrite en français, puisque l'immense majorité, sinon toutes, les études qui sont menées sur les systèmes alphabétiques sont faites sur des caractères imprimés. Et peut-être que la notion de décodage de l'écriture manuscrite, là encore, ferait intervenir de façon plus prépondérante ces régions plus antérieures du cortex frontal, un peu comme le chinois. En tout cas, il y a un dernier point que je voudrais mentionner, c'est que ces différences entre lecture chinoise et lecture de système alphabétique se retrouvent, peut-être Joe, tu vas le mentionner, dans le domaine de la dyslexie, avec la suggestion de nos collègues chinois et avec Chuck Perfetti notamment, que si l'on isole un groupe de mauvais lecteurs en Chine, eh bien on trouve plus souvent des hypoactivations dans ces régions préfrontales plus antérieures qui font la différence ici entre les deux systèmes de lecture. Autrement dit, il n'est pas impossible que la difficulté de lecture soit d'origine un tout petit peu différente en fonction du système d'écriture qui est maîtrisé par les sujets. Et très clairement, on en a parlé beaucoup au cours du séminaire, j'en ferai une synthèse la semaine prochaine, ou dans 15 jours plutôt, au dernier cours, l'origine des difficultés de lecture dans nos pays, en particulier en anglais, en français, c'est très souvent des difficultés d'origine phonologique, et les déficits d'activation se situent la plupart du temps dans le lobe temporal, par exemple dans ce genre de région qui est en rouge ici, eh bien il semble qu'en chinois, la difficulté la plus massive à l'origine des difficultés de lecture se situe plutôt dans les régions préfrontales gauches, comme si il y avait là la possibilité d'une étape limitante dans l'apprentissage de la lecture. Et là encore, c'est peut-être la question de la phonologie, mais adressée. Ou bien, est-ce que ce n'est pas la notion de la mémoire d'un immense jeu de caractères, plusieurs milliers de caractères, chacun avec leur geste particulier, qui poserait donc des difficultés particulières aux enfants qui auraient des anomalies cérébrales dans cette région? Alors, je conclue le cours d'aujourd'hui en revenant à l'image de départ. Le réseau dont nous avons analysé l'organisation, qui comprend donc des composantes visuelles, des composantes phonologiques, des composantes lexico-sémantiques, est très largement universel. C'est ce qui ressort de la plupart de ces études. Ce réseau se retrouve de façon régulière. Néanmoins, la variabilité culturelle intervient localement. À la fois, l'intensité d'activation peut être modulée par le système d'écriture particulier, et je pense qu'une voie de recherche très importante consistera à regarder plus précisément la position exacte de ces pics afin de comprendre à l'intérieur d'une région, et non plus en traitant ces régions très globalement à l'échelle de 2 cm, à l'intérieur d'une région, est-ce qu'il n'y a pas des petites différences de topographie qui traduisent en fait des différences de codage fin de l'information suivant les systèmes d'écriture. Voilà, donc à la fois unité et diversité des systèmes d'écriture. Je vous remercie.